don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家，
正忙着切记挖坑的。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Clément Solezard, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en monde ce matin par Pierrick Monsigny. On poursuit notre série consacrée à l'action humanitaire. Aujourd'hui, retour sur la dernière grande crise épidémique pour laquelle les humanitaires ont été en première ligne. Ebola, un virus découvert en 76 sur les rives du fleuve éponyme. Et puis, décembre 2013, l'épidémie de maladie à virus Ebola part depuis le sud-est de la Guinée, près de Gekedou, puis s'étend progressivement en Afrique de l'Ouest. Ebola, l'ennemi invisible, c'est notre sujet ce matin.
385,
oui.
Ebola positif et 377, Ebola négatif,
oui, malaria négative. Okay.
C'est clair qu'il y a de la panique, il y a de la peur et c'est raisonnable et compréhensible.
On couvre en fait toutes les parties du corps qui pourraient être exposées au virus et on rajoute des lunettes par-dessus. Donc le corps est totalement protégé du risque d'infection.
Ben là, c'est un combat qui s'engage. Le combat, soit tu vis, soit tu meurs. Il faut se soigner. On te donne des produits. Mais mentalement, il faut te préparer.
L'enfant a besoin de soins immédiats, mais la première chose, on doit être sûr que nous, on ne s'expose pas.
On n'a pas eu l'idée que vraiment c'était Ebola. Vraiment, l'ignorance nous a fait que vraiment, il y a eu assez de décès dans notre famille.
Voilà, selon les bilans officiels, le virus a tué plus de 11 314 personnes en Afrique de l'Ouest, 2536 en Guinée, 4808 morts au Libéria, 3955 en Sierra Leone, les trois pays les plus touchés. Mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, les cas d'infection avaient diminué et la fin de l'épidémie avait été déclarée. Pourtant, malgré les annonces successives de cette fin de l'épidémie d'Ebola, de nouveaux cas ont été détectés en Sierra Leone ce mois-ci. Une étudiante de 22 ans contaminée par le virus, morte le 12 janvier, ainsi que sa tante il y a quelques jours. En tout, une centaine de personnes ont été placés en quarantaine dans le pays. 28 d'entre elles présenteraient un fort risque de contamination. La Sierra Leone avait pourtant annoncé, mi-janvier, l'arrêt des chaînes de transmission de la maladie. Mais on le sait désormais, le virus peut être réactivé chez des sujets qui l'abritent jusqu'à 9 mois après la contamination. La Guinée, Libéria, très durement touchée également par Ebola, ont annoncé la fin de l'épidémie. Aucun nouveau cas signalé pour l'heure dans ces deux pays, mais le risque de voir surgir de nouvelles flambées d'infection subsiste toujours. Une surveillance renforcée a donc été mise en place plus de 2 ans après la réapparition de cette maladie dans les forêts de l'est de la Guinée. Alors pas question de relâcher l'effort alors que le but est presque atteint. La lutte contre l'épidémie a constitué un chantier de premier plan pour les ONG et notamment pour Médecins Sans Frontières qui a accueilli plus de 10 000 patients dans ses centres de traitement, tantôt accusés de sorcellerie ou de néocolonialisme. Les humanitaires ont dû apprendre à faire face à une menace d'une ampleur inédite. Alors que l'épidémie approche de sa fin, quelles leçons peut-on tirer de la prise en charge des malades, notamment par les ONG? Ont-elles été tirées justement ces leçons, notamment s'agissant du rapport aux populations locales et de la manière dont il convient d'agir en prenant en compte les environnements socioculturels? Et puis, quid de l'OMS également? Est-ce qu'elle a été à la hauteur? Est-ce qu'il faudrait revoir le périmètre de ses missions pour répondre plus efficacement à ce type de crise sanitaire? Voilà les questions, les grandes questions qui vont nous occuper ce matin. Pour y répondre, deux invités. D'abord, celui qui est avec moi ici en plateau à Paris, Alain Épalboin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, anthropologue, chargé de recherche au CNRS. Vous êtes au Musée de l'Homme et depuis le début de l'épidémie, vous avez fait plusieurs missions, notamment en Guinée. Vous êtes un spécialiste de l'anthropologie du corps, de la santé, du guérissage. On va voir ce que peut nous apporter justement le regard de l'anthropologue sur ces questions-là. Et puis, avec nous en duplex depuis Bruxelles, chez notre correspondant Quentin Dickinson, c'est Michel Van Herpe qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Delors.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste chez Médecins Sans Frontières. Vous aussi, vous avez fait plusieurs missions en Guinée, Sierra Leone, Libéria. Je crois que la dernière, c'était en juin 2015. Vous travaillez sur Ebola maintenant depuis une quinzaine d'années. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de parler d'Ebola, qui va évidemment nous intéresser pour la majeure partie de cette émission, quand même un petit mot, Michel Van Herpe, sur un autre virus qui inquiète en ce moment, Zika, qui fait beaucoup de dégâts au Brésil et qui a notamment notamment atteint l'Europe. Hier, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a tiré la sonnette d'alarme en affirmant que le virus Zika allait continuer à s'étendre à tout le continent américain. Il est déjà présent sur plus d'une vingtaine de pays. C'est quoi la menace liée à ce virus ? Michel Barnab, est-ce qu'il faut s'inquiéter autant qu'on s'est inquiété pour Ebola ?
Non, il faut d'abord comprendre quel type de maladie ce virus peut occasionner. C'est une maladie qui, dans la plupart des cas, est bénigne, en tout cas par rapport aux connaissances qu'on a actuellement. Dans 80% des cas, les gens ne développent pas de symptômes, donc ils ne sont même pas conscients qu'ils ont ce virus dans le sang. Par rapport aux 20% restants, eh bien, vous avez alors des symptômes qui sont assez légers, hein, qui sont des conjonctivites, une éruption cutanée qui peut démarrer au niveau de la face. Ce genre de choses bénignes, comme par exemple aussi des douleurs articulaires. Et ce qu'on a vu, c'est un virus émergent. Donc on n'avait pas beaucoup de connaissances. C'est un virus qu'on connaît depuis plus de 60 ans. Mais on n'avait pas beaucoup de connaissances sur ce virus. Maintenant que ça a touché l'Amérique du Sud, il y a énormément de cas. Et donc on découvre des choses qui sont moins fréquentes. Comme un petit peu ce qu'on a vu dans l'Ebola aussi, où au fait du grand nombre de cas, on voit des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, ce virus a touché l'Amérique du Sud et va continuer à se répandre dans toutes les zones tropicales et péritropicales, et peut même effectivement toucher le sud de l'Europe.
Alors, Ebola, Michel Van Herpe. Mi-janvier, on nous dit que les chaînes de transmission de la maladie sont rompues. Et puis quelques jours plus tard, on apprend qu'il y a des nouveaux cas d'Ebola. Comment comprendre l'émergence de ces nouveaux cas ? Et est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Ou est-ce que c'est simplement, j'allais dire, une simple réplique d'une crise sanitaire qui est quand même derrière nous ?
Oui, en fait, on est au dernier feu de l'épidémie. Lorsque l'OMS disait qu'ils avaient coupé les chaînes de transmission, il s'agissait des chaînes de transmission connues. Et en ça, c'est un succès. Mais, comme je vous disais, avec le nombre de cas que l'on a eu dans l'Ebola, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas avant, et notamment le fait de pouvoir garder le virus au niveau du sperme, notamment, pendant une longue période. Et probablement le cas malheureux qui est arrivé maintenant en Sierra Leone est probablement dû à cette contamination sexuelle, on va dire, d'un survivant qui conservait du virus actif au niveau de son sperme et qui a infecté la jeune femme qui est le début de cette nouvelle chaîne. Maintenant, on met en place les activités comme on le faisait auparavant, de suivre les contacts afin d'éviter qu'il y ait des nouveaux cas qui se déclenchent lorsque cette jeune femme a été prise en charge par sa famille ou lorsque des voisins ont aidé à nettoyer son corps lors de l'enterrement.
Oui, évidemment, Alain et Palboin, ce que craignent les médecins, c'est ces patients qui ont été infectés, qui n'ont plus les symptômes de la maladie, mais qui sont encore porteurs du virus. On a mis en place un suivi médical, évidemment, pour ces personnes infectées, mais débarrassées des symptômes de la maladie. La Guinée, par exemple, a élaboré une feuille de route, Alain et Palboin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a dans cette feuille de route, les grands principes, et est-ce qu'elle vous paraît suffisante de nature à répondre aux défis, Alain et Palboin ?
Donc le problème actuel, c'est donc contamination sexuelle et auto-réinfestation des personnes, comme l'infirmière écossaise dont le cas est survenu il y a quelques mois. Donc des mesures sont prises à l'heure actuelle pour assurer un meilleur suivi des malades guéris, y compris des processus de vaccination, mais on se retrouve confronté, dans ce cas comme aux autres, par des fuites des personnes, et notamment dans les programmes de vaccination qui sont mis en place à l'heure actuelle autour de ces malades guéris, c'est de vacciner les contacts. Or, le problème de ces malades
guéris... Ce qu'on appelle la vaccination par ceinture.
C'est cela. Mais le problème, c'est que ces malades guéris sont l'objet d'une stigmatisation déjà intense. Donc, en plus, venir leur dire à tous les amis qu'on va les vacciner, ça va poser problème. Et par ailleurs, s'il y a rapport sexuel, ce sont souvent des rapports sexuels non officiels où on ne déclarera pas le contact. Donc, des efforts sont en jeu. Je ne suis pas certain que les associations de malades puissent jouer le rôle qu'ils devraient jouer aussi par rapport à ça, qu'ils soient suffisamment mobilisés. Bon, et il y a une inquiétude persistante.
Oui. Il y a évidemment cette surveillance active en ceinture, mais il y a aussi la question de la prévention qui pose question en Guinée. Le coordinateur national de la lutte contre Ebola, qui est le docteur Sakoba Keïta, a dit son inquiétude de voir son pays un peu abandonner les mesures de prévention contre la transmission du virus, alors que le pays est quand même pas complètement sorti d'affaire. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté la prévention? Question naïve.
On n'a pas véritablement... Alors, la prévention... Et la prévention a consisté essentiellement à mettre des lave-mains à l'entrée des édifices publics, avec peut-être une sensibilisation pas suffisamment poussée pour dire si tu as un ami malade, tu as du savon avec toi, tu es autonome, tu te laves les mains. Et le problème de la prévention, ce qui est apparu ces dernières semaines, c'est que les populations chez lesquelles on retourne pour réactiver cette prévention sont extrêmement réticentes, comme dans les épidémies précédentes qui avaient lieu en Afrique centrale. Après l'épidémie, les gens ne veulent plus entendre parler de ça, parce que ça les stigmatise, ça stigmatise leurs produits agricoles. Bon, ça c'est une chose. Et puis par ailleurs, il y a aussi des problèmes que de la prévention, ça se paye. Il faut que les acteurs de terrain soient payés régulièrement. Le sont-ils? Ne le sont-ils pas? C'est très difficile à mener.
Michel Van Herp, à la fois sur cette question de la surveillance active et puis sur cette prévention qui est peut-être un peu, pour un certain nombre de raisons évidemment, mais abandonnée. Michel Van Herp.
Bien, par rapport à la prévention individuelle, je voudrais dire d'abord que on a déjà vu ça en mai 2014 où les cas avaient commencé à diminuer en Guinée et une partie du personnel médical avait commencé déjà à oublier les mesures de précaution essentielles. Comme dit Alain, effectivement, les gens veulent que cette épidémie soit derrière eux, ne plus y penser. Et une partie de ces méthodes de prévention leur rappelle en fait en quelque sorte l'horreur. Et c'est quelque chose de très humain finalement de laisser tomber des choses qui vous obligent à faire des efforts en plus, surtout s'il n'y a pas de moyens financiers ou matériels pour pouvoir continuer ça. La surveillance renforcée qui se passe maintenant, en fait, elle dépend vis-à-vis des malades, de l'implication qu'il peut avoir, des survivants. Et comme le notait Alain, effectivement, le rôle des associations de survivants d'Ebola devrait être peut-être un petit peu plus actif, car on propose notamment aux hommes survivants de pouvoir tester leur sperme afin de voir s'il contient encore des traces de virus ou pas, et de le faire ça d'une façon régulière jusqu'à ce que les traces ne subsistent plus au niveau du sperme et qu'on puisse considérer alors que la personne est totalement guérie et non porteuse du virus. Mais il faut quand même une certaine mobilisation au niveau des survivants pour pouvoir s'intégrer dans ce type de suivi.
Est-ce que les autorités locales, pardon de vous couper, poussent justement ces associations de patients anciennement infectés par le virus pour justement faire ce travail-là? On ne peut pas non plus leur laisser seuls la responsabilité de ce travail.
Non, tout à fait. Les mesures étaient un petit peu chaotiques au début, il y a quelques mois, et maintenant, progressivement, les choses se mettent quand même mieux en place, et il y a un certain nombre d'associations et d'ONG qui proposent ce suivi médical et psychologique aux survivants. Mais de là à ce que tout le monde vienne, vous savez, c'est difficile parce que ça va encore éventuellement les stigmatiser, d'autres aussi. Ça leur coûte de l'argent éventuellement de venir jusqu'à ces lieux de consultation. Il faut prendre ça en compte. Donc la bataille n'est pas encore gagnée.
Oui, parce qu'il y a la bataille pour lutter contre le virus et puis il y a l'autre bataille. Je propose d'écouter un Guinéen qui vivait à Conakry, c'est Zorbo Doré, qui a réussi lui à vaincre la maladie, comme près de la moitié des personnes infectées. Mais si le combat contre le virus a été rude, c'est surtout celui ensuite contre justement cette stigmatisation de la société qui a été pénible. Il se confiait au micro de Solène Lehen, qui est journaliste pour Radio France. C'était en novembre 2014. Écoutez.
C'est ce qui m'a donné envie de vivre, mon courage surtout. Cette maladie, c'est un problème de morale que tu peux en même combattre ce virus. Si le moral n'est pas là, tu ne peux pas combattre. Mais il faut avoir un certain degré de morale très élevé. J'ai traversé d'abord mon état de convalescence qui a été très dur pour moi parce que j'ai été beaucoup stigmatisé dans mon quartier. J'ai été beaucoup stigmatisé, seulement c'est mon église qui m'a beaucoup aidé. Ils m'ont jamais stigmatisé dans mon église. Mais mes amis du quartier m'ont ségrégué et je me suis dit que la maladie n'est pas dure, mais c'est l'après-maladie qui est dure. L'après-maladie qui est dure. Je passais toute la journée assise à la maison. Je voyais le soleil se lever, le soleil se coucher. Je n'ai pas d'amis pour causer avec lui. D'autres m'approchent, mais pas comme ça. Même les propres, les jeunes frères de mes papas, ils tous m'ont refusé. Ils ne sont jamais venus me rendre visite. Ils ont peur pour eux. Quand ils allaient m'approcher, j'allais contracter la maladie. C'est très dur jusqu'à présent, mais c'est pas facile.
Voilà, c'est l'après-maladie, dit-il, Zorbo Doré, qui est difficile. Ces personnes touchées par Ebola qui font l'objet de discrimination, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. En guise d'exemple, par exemple, l'histoire de cette jeune femme du Sierra Leone qui a perdu 19 personnes de son entourage, dont son mari et deux de ses enfants, et qui, quand elle rentre chez elle, est attendue par la famille et par les voisins. Il l'accuse d'être responsable de tout ce drame et il la jette à la rue. Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, Alain Eppelboin. Quels sont les efforts concrètement qui ont été déployés pour favoriser, pour aider à la réinsertion de ces survivants du virus? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu une amélioration de ce point de vue-là, Alain Eppelboin?
Je ne peux pas dire. Ce qu'on entend, c'est à partir du moment où on sait qu'il y a une contamination sexuelle, une épouse qui est répudiée, perte de logement, perte de travail. Je voudrais aussi dire, je reviens un tout petit peu sur la prévention. La prévention, il ne suffit pas qu'on dise de faire de la prévention. Vous savez, en général, la prévention, c'est des gens qui viennent faire un discours. Alors, Ebola est en 69, blablabla, blablabla. Mais une prévention, ça se base d'abord sur une écoute des gens. Quel est leur savoir? Quelles sont leurs émotions? Une formation adaptée. C'est une formation où c'est pas parce qu'on a été voir les chefs ou des gens importants. C'est une formation qui touche par le peuple. Et puis, c'est une imagination permanente pour toucher la société civile, pour la mobiliser, pour créer les solidarités. Et ça, c'est souvent assez dogmatique. Hein. On entend par exemple sur la veille Internet, on voit que les radios vont être réactivées, mais pour quel programme? Pour dire quoi?
Et c'est pas seulement délivrer, j'allais dire, son catéchisme, n'y voyez aucune... il faut que ça se passe dans les deux sens, il faut qu'il y ait un véritable échange. Michel Van Herpe, vous souscrivez, j'imagine, à cette idée que ce n'est pas seulement que d'expliquer des campagnes de prévention, qu'il faut aussi être à l'écoute des populations, et que c'est peut-être ce qui a manqué du côté des humanitaires.
Oui et non, dans le sens... Oui. Je suis bien d'accord que la... En fait, on appelle ça, nous, dans notre jargon, la promotion de la santé. Il faut qu'il y ait des équipes qui puissent aller dans le village et avoir une discussion franche, ouverte, avec l'ensemble des composantes du village, les chefs, les familles qui ont été touchées, les commerçants qui vivent dans ce village, qu'il puisse y avoir cet échange entre leurs questions, leurs préoccupations et nous, notre capacité de répondre d'une façon technique ou d'une façon sociale à leurs préoccupations. C'est cette relation proche entre les équipes de prévention et les gens touchés qui vont permettre d'atténuer une partie de cette stigmatisation. Cependant, ça reste quelque chose qui est propre à l'individu. On a connu une famille comme celle-là qui avait eu une quinzaine de cas dont certains avaient survécu. Et malgré tout, le dernier cas de la famille, c'est une tante qui s'est enfouie avec un enfant qui était malade. Le reste de la famille était convaincu, elle n'était pas convaincue. Donc vous voyez, les efforts de prévention sont vraiment gigantesques à faire pour éviter que les gens continuent à stigmatiser les autres. Et je dirais, outre les malades, il y a un problème aussi de stigmatisation des soignants, de ceux qui ont travaillé dans l'Ebola, qui sont eux aussi stigmatisés par la population, que ce soit des infirmiers, que ce soit des médecins, que ce soit les gens qui ont aidé à enterrer les morts contaminés. Il ne faut pas oublier non plus ce côté de stigmatisation du personnel de santé.
On va en parler de cette stigmatisation-là, effectivement, du personnel de santé, mais je voudrais rappeler quand même pour les auditeurs qu'en décembre 2014, il y a un certain nombre de responsables de MSF qui ont dénoncé dans une lettre ouverte la mauvaise qualité des soins délivrés aux malades d'Ebola, parlant même d'une forme institutionnalisée de non-assistance à personne en danger, ce qui est très fort. Quelles étaient, justement, vous qui faites partie de MSF, les critiques principales venu de l'intérieur? Et est-ce qu'il vous semble qu'il y a eu une prise de conscience depuis et que peut-être l'approche a changé?
Je veux dire, d'abord, la MSF est très fort dans l'autocritique et c'est très bien.
Parce c'est une bonne chose.
Ça nous permet toujours d'avancer. Par rapport aux critiques qui étaient faites dans la lettre, il faut distinguer deux choses. Une, c'est que lorsque vous avez un certain nombre de malades qui se présentent devant vos centres de prise en charge et que vous êtes débordé, que vous avez 250 cas à l'intérieur de votre centre de traitement d'Ebola et que d'autres malades arrivent et que votre personnel est limité, eh bien vos soins seront limités aussi. Je veux dire, il n'y a pas de miracle là-dedans. Les soins que vous pouvez donner dépendent du nombre de personnel que vous avez. En Europe, vous aviez 20 médecins pour un malade. En Afrique, eh bien, c'était un médecin et encore pour 20 malades. Donc, vous voyez un petit peu la différence de choses. Toujours est-il que, effectivement, il faut toujours essayer de se surpasser et que des analyses de laboratoire qui n'étaient pas faites jusqu'au dernier mois de l'épidémie ont pu être mises en place afin de mieux suivre l'évolution des patients, et ce qui nous a permis de sauver encore plus de vies. Malheureusement, pour le moment, on ne dispose pas encore vraiment d'un traitement efficace qui nous permettrait d'améliorer encore les chances de survie des patients.
Alain Eppelboin, votre regard d'anthropologue, qu'est-ce qui, j'allais dire, péchait dans les réponses apportées par MSF dans cette crise ?
Ben, dans les choses qui péchaient, d'abord, on parlait tout à l'heure de la prévention. La prévention, c'est aussi une relation personnalisée, de confiance. Donc on a obligatoirement un turnover des personnels, ce qui fait que chaque nouveau personnel va renouveler les relations et ne va pas pouvoir s'appuyer sur une relation de confiance personnalisée. Bon, ensuite, dans les problèmes, c'est par exemple le fait qu'une structure hospitalière mise en place va importer en même temps toutes les qualités et tous les défauts des structures hospitalières, alors je dirais de façon ironique, y compris la lutte des classes, les difficultés de rapport entre les différentes catégories personnelles. Et puis, on est quand même dans des systèmes où il y a des problèmes de sécurité. Donc, ça signifie que les personnels vont travailler à l'hôpital, un véhicule va les amener sur leur base, les contacts avec la population, là aussi, vont être assez limités. Et puis, Michel l'a bien dit aussi, c'est que ce n'est que très récemment qu'on a des laboratoires biologiques dans ces structures hospitalières. Or, Ebola, c'est une maladie extrêmement complexe, avec des effets sur différents organes. Et si on n'a pas une biologie clinique déjà minimale et sophistiquée, on ne va pas pouvoir fonctionner. Une image qui m'avait beaucoup frappé, c'était un malade qui avait été évacué en Allemagne et qui recevait jusqu'à 15 litres de perfusion par jour à un moment donné. Et là, dans les conditions sur le terrain, il est difficile d'obtenir une qualité de médecine interne de cette qualité.
Je sais qu'il y a une des choses qui étaient problématiques dans l'intervention de Médecins Sans Frontières, c'est la question de l'interdiction des funérailles traditionnelles qui avaient été interdites à ce moment-là. Ça a été très très mal perçu par la population. Totalement incompris.
Ah ben,
et
oui,
en même temps, on comprend que techniquement, c'était indispensable.
Alors, dans les épidémies précédentes, on avait réussi à contourner ces interdits. Par exemple, dans des sociétés où le défunt doit emporter avec lui ses bagages, on proposait plutôt que de brûler les bagages, de les mettre dans la tombe, de les mettre dans le sac mortuaire. Au début de l'épidémie, à Kékédou, lorsque nous étions ensemble avec Michel Van Herpe, il y avait une attention sur le fait que les défunts au centre de traitement étaient enterrés à domicile. Et il y avait toute une série de précautions qu'on essayait de mettre en place, que la famille soit avertie, qu'il puisse voir le visage du malade, d'être présente, présenter les condoléances, etc. Et puis petit à petit, avec la presse, avec le nombre de défunts, cette pratique a été abandonnée. Donc les morts au CTE, dans les centres de traitement, sont enterrés à proximité, donc même si la famille est présente de façon pas satisfaisante. Et puis on a eu ce gros blocage sur la Guinée, qui était en particulier le problème de la toilette funéraire, où on ne peut pas toucher le cadavre, même avec des gants, pour faire une toilette funéraire. Et ça, ça a été un blocage que les anthropologues n'ont pas réussi face à une règle de trouver un mécanisme de contournement. On a bricolé, c'est resté quelque chose qui, du début jusqu'à la fin, cette absence de toilette funéraire a été dramatique.
Parce que les médecins n'entendaient pas les anthropologues
parce que
l'urgence faisait que c'était pas possible.
Parce que très concrètement, on ne peut pas laver des corps hyper contaminés, même avec des gants, même avec des protections. En tout cas, c'est la règle qui a été fixée de faire la toilette adéquate, et encore moins de le faire par des personnes locales, à savoir conformes, parce que là, la prise de risque est extrêmement intense. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été résolu et qui, jusqu'à présent, fait des mal-morts. Et là, il faut passer dans la dimension anthropologique, que ce soit pour la mort ou sur la causalité de la maladie. C'est-à-dire que, je dirais, dans ce type de société, on pourrait dire que parfois on traite moins bien les vivants que les morts, mais un mort qui n'est pas satisfait va provoquer du malheur, va compromettre la chance ou la fécondité de la famille.
Et donc va provoquer, in fine, la discrimination du personnel sanitaire.
Mais alors, ce qui fait que, par exemple, les volontaires de la Croix-Rouge guinéenne, dévouement tout à fait extraordinaire. Il faut parler d'MSF, mais il faut parler aussi d'autres intervenants qui jouent un rôle extrêmement important, et notamment la Croix-Rouge guinéenne. Souvent des jeunes gens, parce que les personnes âgées ne sont pas recrutées, ne sont pas volontaires dans ce type d'organisation. On fait ce qu'ils peuvent, mais là aussi, Michel l'a bien souligné, les malades sont stigmatisés. Ça, c'est une chose. On y est habitué avec le sida, si j'ose dire. Mais les volontaires de première ligne, ceux qui restent, nous, on fiche le camp. C'est pas, ensuite, on n'est plus là. Continuent, et on l'a vu, par exemple, au Congo, 4 ans après l'épidémie, ils sont encore accusés de s'être enrichis, d'avoir eu des primes pour trouver des cadavres. Et on est en permanence, si vous voulez, dans des logiques à la fois biomédicales, psychologiques classiques, mais en même temps des logiques qui sont dues au fait que ces morts ne sont pas naturelles, ces morts sont provoquées. MSF, les organisations internationales, ont été accusées dès le départ d'avoir provoqué le virus pour s'enrichir, mais ensuite, au niveau local, tous les conflits latents qui vont exister, accusations de sorcellerie vers la belle famille, vers les lignées maternelles, vers les voisins, vers l'ethnie voisine, et tout ça est extrêmement difficile.
Ça explique qu'effectivement MSF puisse se retrouver sur le banc des accusés, qui auraient...
Des malheureux, oui.
Alors qu'évidemment... Michel Van Herpe, réaction.
Oui, en fait, je voudrais compléter un petit peu le panorama qu'a dit Alain, dans le sens aussi, et notamment le rapport à la mort, en prenant le cas du Libéria, et au plus fort moment de l'épidémie à Monrovia, en fait, le gouvernement a instauré l'incinération des corps. Et ce qui fait que là aussi, c'est une grande incompréhension par rapport au niveau des populations. Dans le sens même, si vous aviez dans le temps un malade qui mourait du sida, vous pouviez faire les rites funéraires, laver son corps, vous pouviez l'enterrer, avoir un endroit où vous pouviez vous recueillir après. Avec cette incinération à Monrovia, eh bien le mort disparaissait. Il n'y avait même pas de cérémonie funéraire, pas de lavage des corps, ni rien. Et le mort disparaissait. Il n'y avait même pas un lieu de recueillement. Et ça aussi, ça a troublé très profondément les gens et a fait qu'il y a eu un certain rejet de mesures de santé publique prises par le gouvernement à ce moment-là.
Et on a réajusté les choses ?
Une fois que les cas ont commencé à diminuer, alors vous aviez plus de temps et vous aviez des possibilités effectivement d'enterrer les morts d'une façon plus traditionnelle, on va dire.
D'accord, donc c'est pas seulement une question de compréhension, c'est aussi une question de temps, de moyens.
Tout à fait. Si vous avez assez de personnel, si vous avez assez de moyens de transport, effectivement, je recommanderais que les morts soient enterrés dans leur village, dans leur communauté, en prenant le temps de montrer le visage du mort à la famille, de pouvoir mettre dans le sac mortuaire des objets personnels, de les suivre jusqu'au niveau de la tombe. Mais pour ça, il vous faut des ressources. Et à partir, je vais dire, du mois de mai jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à décembre, ces moyens n'étaient malheureusement pas là pour pouvoir offrir toute la dignité que l'on pourrait vis-à-vis du mort.
Alain Epalbon, encore une réaction avant d'évoquer la question du vaccin que je voudrais qu'on aborde avec Michel.
Oui, la crémation des cadavres est impensable en Afrique. Les seuls personnes, entre guillemets, qui sont brûlées, ce sont des gens accusés d'être sorciers avec un collier de pneus. Bon. Alors, je crois que ensuite il y a eu une récupération des cendres et une mise en place de rituels, mais la douleur est permanente, le traumatisme est permanent et les séquelles sont profondes.
Michel Van Herpe, quels sont les espoirs de développer un vaccin pour Ebola? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et à quel terme on peut raisonnablement attendre un vaccin efficace?
Mais je pense qu'on a un très bon candidat avec le VSV. C'est un vaccin qui a été testé dans différents pays au niveau de volontaires et on a vu que son innocuité, très peu d'effets secondaires sont engendrés par ce vaccin. C'est le vaccin qui a été utilisé en Guinée et actuellement en Sierra Leone pour vacciner les contacts d'un cas et les contacts des contacts, et qui a jusqu'à présent, par rapport aux études qui ont été faites, démontré une efficacité qui est de l'ordre de 100%, avec une marge d'erreur. Mais c'est un vaccin extrêmement intéressant. Ce n'est pas suffisant, je reviendrai après sur les médicaments. Le problème auquel on était confronté, c'est la production de ce vaccin et le fait d'en avoir suffisamment si une prochaine épidémie se déclare. Et c'était nos craintes donc de cette accessibilité à un vaccin efficace. Apparemment, depuis quelques jours, il y a eu des fonds qui ont été dégagés afin de constituer un stock de réserve pour ce vaccin. Et on va continuer à suivre ce processus pour être sûr que ces vaccins seront disponibles.
Donc on va pouvoir avoir un vaccin, on va pouvoir déployer la stratégie de la vaccination qu'on appelle en ceinture, c'est-à-dire on vaccine toutes les personnes qui font partie de l'environnement d'une personne infectée. C'est ce qui avait été utilisé avec la variole et ça avait très bien fonctionné puisque la maladie a été officiellement éradiquée en 1977. Mais en tout cas, on est sur ce projet de réponse sanitaire.
Oui, mais je pense que ce projet, penser pouvoir contrôler une épidémie d'Ebola uniquement avec un vaccin est illusoire pour moi. On l'a vu en Guinée, on le voit maintenant en Sierra Leone. Un certain nombre de gens refusent la vaccination. Comme Alain l'expliquait, il y a toujours cette image chez certaines personnes du fait que c'est les Occidentaux, le gouvernement qui a importé ce virus pour se faire des sous, voire même que dans les centres de traitement Ebola, on vous injectait le virus. Donc tout ce qui est injectable reste dans une grande méfiance pour une partie de la population.
Je crois qu'Alain Epalbon, je vous en prie.
Il faudrait compléter cette stratégie de vaccination avec aussi, si on a un ou deux candidats pour ça, avec un médicament que l'on pourrait offrir au contact d'un cas. Là, il resterait maître de leur devenir en prenant ou en ne prenant pas ce médicament. Une fois qu'on vous fait une injection, elle est dans votre corps et puis c'est tout. Donc il faudra complémenter cette approche.
Alain Epalbon, je crois que vous n'êtes pas tellement favorable à cette stratégie de la vaccination.
Non, c'est pas... Michel a bien souligné que la vaccination, encore faut-il que les populations l'acceptent. Malheureusement, peut-être que je suis pessimiste, mais l'histoire des sciences et des sciences pharmaceutiques nous indique que très souvent, on annonce des succès qui se révèlent ne pas être des succès. Quand j'entends parler d'une vaccination efficace à 100%, c'est de la communication. Aucun vaccin n'est efficace à 100%. Par ailleurs, les vaccinations ont démarré à des moments où il y avait des petites chaînes avec un nombre de contacts limité, où les contacts, on leur proposait la vaccination. Nous n'avons pas d'informations sur le pourcentage de contacts, individus, collectivités qui ont refusé la vaccination. Il faut souligner aussi que la vaccination s'est mise en place à un moment, c'est-à-dire janvier 2015, enfin à partir de 2015, donc où d'une part il y avait où les services n'étaient pas submergés par comme Michel l'a dit pour l'année précédente, mais que Dans le même temps, la surveillance, l'information, le suivi des champs, la sensibilisation ont joué un rôle dans la maîtrise des petites chaînes qui se sont mises en place. Donc, je veux garder à l'esprit la possibilité que ce vaccin ne soit pas aussi efficace qu'on veut bien le dire, et il n'est pas certain que ce vaccin soit la panacée que l'on décrit. Et d'ailleurs, d'autres vaccins sont en cours, qui sont en cours d'essai, qui ont aussi des résultats prometteurs. Donc, le doute n'est pas une critique systématique, mais le doute doit quand même, me semble-t-il, doit être présent. Moi, en tout cas, je ne suis pas certain, je n'ai pas d'argument véritable pour dire que c'est à cause de cette vaccination que les chaînes ont été contrôlées en 2015. Et en ce qui concerne, il y a une autre vaccination qui a été faite auprès des personnels. MSF forme très bien ses personnels. Il y a eu très peu de cas chez les personnels MSF de contamination. Donc, qu'est-ce qui relève de l'effet vaccination? Qu'est-ce qui relève de l'effet formation-mobilisation des personnels? On doit se poser cette question.
Michel Van Herpes, c'est une question que vous posez, ce lien entre la vaccination et puis le fait qu'on est quand même parvenu à limiter les dégâts.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Alain, dans le sens, pour moi, la vaccination n'est pas la panacée, c'est juste un outil en plus. Le meilleur outil pour arriver à contrôler les chaînes de transmission, à aider une famille, c'est la confiance que vous pouvez développer avec eux. Après, il faut essayer de leur donner de l'espoir. Alors, si vous avez un vaccin, certains seront peut-être intéressés. Si vous avez un médicament, d'autres seront intéressés. Et puis, il y aura un groupe aussi avec qui il faudra parler, avec qui il faudra se revoir régulièrement, et pour que petit à petit, ils comprennent leurs mesures de prévention qu'ils peuvent faire à leur niveau. Dans l'approche des cas de leur famille. Donc, ce n'est
finalement, vous n'êtes pas en désaccord. Vous n'êtes pas en désaccord en réalité.
Non, pas du tout. Mais simplement, pour moi, le vaccin est un outil en plus qu'on n'avait pas avant et nous permet de donner un peu plus d'espoir, comme des médicaments éventuels, comme le Favipiravir, qui avait été étudié par l'INSERM en France. Plus on a d'outils, plus ça nous permet de créer des relations de confiance, plus ça nous permet de donner de l'espoir aux gens. Donc, à voir, mais à prendre ce vaccin avec les limitations qu'il a, quoi.
Alain Pellebois, encore un mot sur ce.
Là aussi, sur vaccin. Les traitements, le favipiravir, indiqué pour des cas à charge virale relativement baisse, des symptômes relativement limités, hospitalisés précocement. Il semblerait à l'heure actuelle qu'on revient beaucoup sur le favipiravir, qui pourrait être intéressant dans une association avec une autre molécule. Par contre, il y a des espoirs qui sont donnés avec le ZMAP, qui est un mélange de molécules anticlonales intéressantes, qui ont été utilisées pour cette infirmière écossaise, pour un bébé prématuré. Par contre, tout ce qui est parti vers la sérothérapie, c'est-à-dire que vous reprenez le sérum d'une personne, vous l'injectez, à l'heure actuelle est tout à fait décevant et pour différentes raisons, il n'a pas d'efficacité. Donc, dans cette épidémie, si vous voulez, les progrès de connaissances scientifiques ont été absolument considérables par rapport au séquençage du virus. Donc, par exemple, les cas actuels, on sait que c'est toujours le même virus, on sait que c'est un virus qui est né en Guinée, c'est pas un virus qui a été importé. On ne sait toujours pas, on a toujours cette hypothèse des chauves-souris qui jouent un rôle important, mais du coup, on interdit systématiquement de la viande de chasse, qui va poser des conséquences importantes, et de toute façon, qui ne va pas être respecté. Et en ce qui concerne donc vaccination, enfin bref, il y a des progrès qui ont été faits, aussi dans les tests de diagnostic en général et rapide en particulier, parce que c'est très important que des tests de diagnostic rapide, un petit peu comme pas sur bandelette mais équivalent, puissent être gérés en dehors des gros laboratoires et ça disponible dans toutes les régions pour immédiatement relever l'information. Donc,
Alors, laissons derrière nous la question du traitement, la question du vaccin. Comparaison n'est pas raison, on le sait bien, mais souvent la méthode comparatiste peut être très féconde. Dans quelle mesure est-ce que l'épidémie d'Ebola peut être comparée à l'épidémie du virus SIDA VIH? Écoutez la réponse de Michel Sidibé, qui était directeur exécutif d'ONU SIDA depuis décembre 2008. Au moment où émergeait la crise Ebola, voilà ce qu'il en disait.
Le profil de cette épidémie me fait peur. Moi, je me rappelle, il y a de cela à peu près 30 ans, lorsque nous avons eu les premiers cas, que ça soit en Ouganda quand j'étais représentant de l'UNICEF ou que ça soit au Zaïre de l'époque, donc la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, c'était une épidémie qui se cantonnaient dans des zones bien précises. Le profil change aujourd'hui, on voit un mouvement vers les villes et cela me fait peur. Et deuxièmement, je pense que ça me rappelle un peu le début de l'épidémie du sida. Quand il y avait la peur, il n'y avait pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments, on ne sait pas bien quoi faire, et l'absence de coordination, pas de communication rapprochée. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que après 40 ans, on se retrouve à rechercher quelques sérums venant du Nord. Il faut que l'Afrique se prenne en main, que l'Afrique fasse en sorte qu'on puisse faire émerger des centres de recherche d'excellence. Et moi, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on est en face d'un échec de la gouvernance globale en matière de santé.
Un échec de la gouvernance globale, c'est vrai que, évidemment, c'est une des dimensions qu'on n'a pas encore évoquées. C'est que l'OMS, par exemple, a beaucoup été critiquée dans cette crise sanitaire, Michel Van Herpes, notamment à cause de sa lenteur. C'est vrai que cette crise a été le révélateur aussi, sinon de l'inefficacité, au moins de l'impuissance de l'OMS, Michel Van Herpes.
Oui, tout à fait. J'irais même plus loin de l'OMS et de des Nations Unies d'une façon générale. Vous savez, pour nous, ça n'a pas été une surprise quand il y a eu cette grosse épidémie de choléra en Haïti en 2010-2011. Les seuls qui ont pris en charge des cas, c'était MSF et les services de santé cubains, alors que les structures de l'ONU étaient présentes suite au tremblement de terre. Et bien maintenant, quelques années plus tard, on a vu aussi avec l'Ebola que la mise en place d'une réponse par les grands organismes internationaux a commencé à se mettre en place une fois que la situation était hors contrôle. Donc j'ai assez peur par rapport à la prochaine crise, malgré toutes les déclarations d'amélioration, de suivi, de constitution de groupe et tout ça. Vous savez
pourtant la directrice générale Margaret Chan s'est engagée à installer un programme des urgences au sein de l'OMS. Vous n'êtes pas rassuré?
Ah ben il y avait déjà un programme d'urgence avant, ça s'appelait le GORN. En fait, il a été, minimisé. Son rôle a été minimisé par une partie des responsables de l'OMS en Afrique. Le monsieur auparavant qui mentionnait l'Afrique doit se prendre en charge et doit se prendre en main, d'accord, mais ils doivent le faire d'une façon qui est efficace et qui permet de contrôler les épidémies. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc je suis assez pessimiste pour la prochaine, oui.
Alors, je faisais une comparaison, Michel Van Herpes, entre Sida, VIH et Ebola. Si l'épidémie de Sida, VIH est stabilisée, elle n'est pas encore maîtrisée. Le nombre de personnes atteintes ne baisse pas. Il y a chaque mois de nouvelles personnes qui sont infectées. Il faut rappeler qu'en 2014, 25 000 personnes sont mortes du Sida, VIH en RDC. On va retrouver une nouvelle invitée, Elisabeth Vilain, qui est laborantine, volontaire de solidarité internationale et qui travaille pour une ONG qui s'appelle Afia Santé à Isiro. On est dans le nord-est de la RDC. Afia Santé a été créée en 2014. On est sur un territoire reculé, très isolé, ce qui explique, vous allez voir, que la liaison est pas très très bonne. Elle agit, cette ONG, dans le domaine de la lutte contre le sida VIH notamment. Si cette RDC, elle présente un taux de prévalence du sida parmi les plus faibles du continent, 1,2%, ONU Sida recense tout de même 420 000 personnes vivant avec le VIH, dont seuls 35% ont accès au traitement antiviraux. Ça veut dire que 65% des malades n'ont toujours pas accès aux rétroviraux. J'ai demandé donc à Elisabeth Vilain hier quelles étaient les principales raisons, les principales obstacles pour l'accès à ce traitement.
L'obstacle principal, effectivement, c'est le manque de médicaments. Nous, ici à Isiro, on est très enclavés, ça ne peut venir quasiment que par avion. C'est très loin, ça coûte très cher. L'autre obstacle, c'est le prix, hein, tout bêtement, le prix des médicaments. Ici, la population a souvent à peine de quoi finir le mois. Hein. Le salaire moyen ici, c'est à peu près $30 par mois. Comprenez bien que les médicaments, s'ils ne sont pas gratuits, les gens ne peuvent pas les acheter.
Alors visiblement, il y a un autre élément peut-être, Elisabeth Vilain, c'est le fait qu'un certain nombre de malades ne prennent pas leurs médicaments de façon rigoureuse et continue. Et peut-être que là, du coup, il y a un autre problème, c'est toujours une certaine méconnaissance vis-à-vis de cette maladie, vis-à-vis de ce traitement. Est-ce qu'on peut y voir là un défaut, une défaillance s'agissant de la sensibilisation, de l'éducation sur ces questions?
Oui, c'est un très gros problème. 15-20% peut-être de la population sexuellement active hein, a accès aux informations. C'est très peu. Dans les villages, la télé, il n'y en a pas. Donc l'information, elle est difficile à donner et à obtenir. 80% des besoins en conseil, en dépistage, etc., ne sont pas couverts.
On dit
et
que...
puis, même ouais. ceux qui, effectivement, ont accès à l'information, donc ont forcément accès au dépistage, et le dépistage dans les mentalités, il est difficile à faire rentrer aussi, les gens préfèrent ne pas savoir. Il y a une grosse méconnaissance, et puis il y a des fois pas beaucoup de volonté de connaître.
Est-ce que, Elisabeth Villain, il n'y a pas beaucoup de volonté de connaître aussi parce que les personnes atteintes du sida VIH font quand même souvent, régulièrement en tout cas, l'objet de stigmatisation, de discrimination, voire carrément de violence. Et ça, c'est peut-être un phénomène qui ne s'améliore pas en RDC.
Non, je ne pense pas que ça s'améliore. Ici, il y a encore beaucoup de croyances et de fausses croyances. Comment dire ? Pour beaucoup, c'est une maladie de blanc ou c'est...
Mais vous avez le sentiment que les choses s'aggravent, justement ?
S'aggraver, non, je ne pense pas. Elles se sont aggravées dans le passé. On a eu 10 années de guerre et on en sort à peine. Donc ça, ça n'arrange pas. Disons que ça a tellement dégradé toutes les infrastructures qu'on se relève un peu, quoi. On commence à se relever. Mais moi, depuis bientôt 6 ans hein, que je suis là, non, j'ai pas le sentiment que ça s'aggrave. Petit à petit, ça progresse.
Est-ce qu'on arrive à garder la motivation quand justement les choses changent si lentement, quand finalement les conditions de travail sont aussi difficiles, quand l'accès aux soins est encore, j'allais dire, quasiment marginal? Visiblement, il y a un certain nombre de responsables d'ONG locales qui font état d'une certaine démotivation de la part des personnes qui organisent et qui encadrent toutes ces campagnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous, sur place, cette démotivation?
Parfois, pour ce qui me concerne, oui, bien sûr, hein, bien sûr. Et puis, bon, on se dit, allez, on est là pour ça, il faut y aller, hein. On est découragé parce qu'on a l'impression de travailler pour rien. Mais c'est pas vrai, on travaille pas pour rien. Depuis 10 ans que Afia Santé existe, rien qu'avec la distribution de préservatifs qu'on a pu faire lors de sensibilisation, de rencontres sportives, de choses comme ça, on peut estimer qu'on a prévenu à peu près 20 000 nouvelles.
Et dans ce travail-là, est-ce que vous avez le sentiment d'être soutenu, accompagné par les autorités locales?
Les autorités locales, oui. Les autorités nationales, peut-être moins. Les financements extérieurs au pays représentent presque 98%. Donc l'État intervient pour 2%. C'est dérisoire.
Voilà, donc Elisabeth Villain, membre de cette ONG Afia Santé à Isiro, dans le nord-est de la RDC, que j'ai contacté hier soir, ce qui explique la liaison assez mauvaise, mais il me paraissait important de l'entendre. Alain Epelboin, vous qui connaissez la RDC, finalement, on a l'impression que les difficultés que rencontre Elisabeth Villain pour donc le sida VIH, elles sont pas si différentes de celles qu'ont rencontrées les humanitaires pour Ebola.
Oui, moi, je dis souvent que Ebola, c'est un sida TGV à très grande vitesse, où les événements se déroulent dans un temps minimal. Mais on retrouve dans Ebola, comme dans le sida, des problèmes structurels de fond, des problèmes de poudrière sociale. Isiro, c'est aussi une région où il y a du diamant, c'est aussi des régions où il y a des intérêts connexes. Et puis, vous savez, que ce soit le sida ou Ebola, ce sont des grosses mannes financières et il y a obligatoirement une fonte de cette manne financière entre la source et l'arrivée sur le terrain. Et puis, dernier point, que ce soit pour Ebola, pour le sida, dans les raisons de mauvaise observance, au-delà de phénomènes psychologiques, psychosociaux universels, il y a la croyance que moi j'y échapperai parce que j'ai les protections, parce que je n'aurai le sida que si des sorciers peuvent m'atteindre ou si je n'ai pas fait les rituels, et ça reste aussi des constantes.
Ce qu'on entend aussi très bien dans le discours d'Elisabeth Villain, c'est l'absence de l'État. En 2001, Michel Wanner, pour la première fois, les pays d'Afrique déclaraient que l'épidémie sida constituait une urgence pour le continent, qu'il y avait urgence à répondre. Au terme du sommet, les signataires de la déclaration d'Abuja s'engageaient à effectuer au moins 15% de leurs budgets nationaux à la santé publique d'ici à 2015. 2015, ça y est, c'est passé, sauf qu'on n'y est pas du tout. Le compte n'y est pas du tout, Michel Wanner. En quelques mots, parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais c'est vrai que c'est un point très important.
Oui, tout à fait. On pourrait dire que le sida a un temps de continuité. C'est devenu presque une maladie chronique. Et donc, maintenir un effort au long cours est toujours très difficile par rapport à l'Ebola, qui est un phénomène beaucoup plus aigu, où on peut espérer la disparition de la maladie.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir été nos invités. Michel Wanner, donc en duplex depuis Bruxelles, chez notre correspondant Quentin Dickinson. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste chez Médecins Sans Frontières. Et puis un grand merci à vous également, Alain Epelboin, de nous avoir accompagnés, en médecin, anthropologue, chargé de recherche au CNRS, et également membre du Musée de l'Homme. Merci infiniment à tous les deux. Don't even know what to say. Thank God that it's over. No time for the haters. Watch me do a zone two, a zone two, a zone two. Now watch me do a zone two, a zone two, a zone two. Now watch me do a zone two, a zone two. Voilà, un petit clin d'œil avec cette musique dans laquelle, eh bien, il y a cet espoir de la fin d'Ebola. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter notre émission sur le nouveau site de France Culture et que cette émission est désormais réécoutable, podcastable à vie, ce qui est une bonne nouvelle.